Donc, je suis très honoré, en fait, d'être ici parmi vous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la deuxième fois dans le cadre du colloque Formatique Santé. Donc, c'est une belle collaboration franco-québécoise. Donc, c'est admirable. Donc, toutes mes félicitations. Et j'espère que ce n'est pas fini. Okay. Donc, comme on a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, en fait, ce qui est intéressant dans le colloque, surtout le thème du colloque aujourd'hui, c'est que c'est vraiment centré sur la personne. Et puis, le fait d'être centré sur la personne, de se recentrer, en fait, sur la personne dans le contexte des innovations technologiques, je pense que ça nous rappelle, en fait, notre mission première. Okay? Et puis, c'est un peu dans cette optique-là que je vais l'aborder, moi, au niveau de la mesure et de l'évaluation de la qualité des soins et des services. Et en fait, au niveau des soins infirmiers, quand on lit un peu ce qui s'est fait jusqu'à maintenant là-dessus, en soins infirmiers, nous sommes des pionniers, en fait, en la matière. Beaucoup de ce que l'on développe comme technique, comme processus, c'est utilisé de plus en plus par les autres professionnels. Donc, et puis je m'amuse souvent à dire aussi qu'au niveau des technologies de l'information ou de l'informatique en particulier, le problème n'est pas là. Okay, le problème n'est vraiment pas là. À preuve, on peut faire pratiquement n'importe quoi aujourd'hui. Malheureusement, c'est le résultat qu'on a souvent aussi. Okay. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation de la qualité des soins, par exemple, et des services, ben, c'est un processus très complexe. Et puis, le défi est vraiment dans l'implantation de ce processus-là et non pas dans son informatisation. Okay. Notre mission, en fait, je le rappelle ici, que notre mission, en fait, c'est d'offrir des soins de qualité qui répondent vraiment aux besoins de la population. Et puis, notre défi, c'est de mettre en place de tels programmes dans les établissements. Je dis que c'est notre défi parce que lorsqu'on commence à recenser, par exemple, les expériences dans les différents établissements, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de succès à ce niveau-là. Des fois, les programmes reposent, par exemple, sur une seule personne qui a tout pris sur ses épaules. Cette personne-là quitte et tout tombe à l'eau. Okay. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas d'instruments, on n'a pas d'outils, par exemple, pour optimiser un travail fou, un travail qui est monstre. Okay. Donc, le but, c'est vraiment de présenter ici, dans cette présentation, un projet de collaboration, en fait, entre chercheurs, cliniciens, gestionnaires et patients, même, okay, dans tout ce processus-là. Donc, je vais prendre le contexte des services de soutien à domicile, en fait, le contexte québécois des services de soutien à domicile. Ce qui est remarquable, et puis si on regarde la première puce, c'est une citation qui date en fait de 1994, qui a été répétée en 2002 par le vérificateur général du Québec qui examine en fait tous les dossiers gouvernementaux et qui nous disait à l'époque que ni les CLSC, c'est un centre local de services communautaires chez nous qui donne des services à domicile. En fait, on dit que ces gens-là ne sont pas en mesure de savoir si la clientèle est bien desservie. Okay? Et puis, ce n'est pas nouveau, là. C'est depuis 1994 et c'est encore le cas aujourd'hui. En fait, il n'y a pas encore d'instrument de mesure de la qualité des soins et des services qui sont dispensés à domicile. C'est en train de se faire. Moi, je suis en train, par exemple, de faire une étude dans un établissement montréalais où on est en train d'utiliser pour la première fois une mesure de la qualité des soins et des services et selon la perspective des patients et des proches aidants. Ce n'est pas selon la perspective des cliniciens. Ça, c'est autre chose. Okay. On a tendance à dire, ben, les patients n'ont pas besoin de ça. Non, dans l'optique d'un clinicien, peut-être pas, ou d'un gestionnaire, mais quand on est le patient, on en a besoin. Okay. Donc, ce qui est particulier aussi au niveau des services à domicile, c'est que c'est des soins qui sont pratiquement invisibles. Ça ne se donne pas dans l'établissement que l'on gère, par exemple. Donc, les intervenants, les infirmières, les autres professionnels sont à domicile, seuls avec les patients. Et puis, ce qu'on oublie aussi beaucoup, c'est que beaucoup de soins, il y a même des études qui démontrent que c'est parfois jusqu'à 80% des soins qui sont donnés par les patients eux-mêmes ou par leurs proches aidants. Okay? Donc, il faut vraiment impliquer puis intégrer ces personnes-là dans la mesure et l'évaluation de la qualité. Bon, aussi, ben, je ne rentrerai pas nécessairement dans le détail. Ça a été, disons, Il va apparaître un petit graphique tantôt juste en dessous de celui-là. C'est une année et demie de travail dans une étude doctorale pour arriver à synthétiser la complexité, en fait, de toutes les perspectives de la qualité. Ce que je veux tout simplement faire ressortir ici, c'est que lorsqu'on commence à s'intéresser à la chose, on se rend compte qu'il y a autant de visions de la qualité qu'il y a d'acteurs, qu'il y a de perspectives. Okay? Donc, les gestionnaires ont leur propre perspective, les patients ont leur propre perspective, les cliniciens aussi. Et parfois, ce qu'on oublie aussi, c'est que ces perspectives-là peuvent être compétitives. Des fois, on peut viser, avoir des finalités qui sont complètement en compétition les uns par rapport aux autres. Même au niveau d'un même type d'acteur, par exemple ici, à gauche et à droite, je donne deux exemples au niveau d'un nouveau concept, en fait, qu'on entend parler beaucoup depuis quelques années, la gouvernance, le concept de gouvernance, où on distingue, par exemple, la gouvernance d'ensemble de la gouvernance de proximité. Et encore là, ce sont des gestionnaires. Et justement, dans l'étude de cas que je suis en train de faire actuellement à Montréal, ce qu'il ressort beaucoup aussi, c'est qu'au sein même des gestionnaires, en fonction du niveau hiérarchique à lequel on se trouve, les finalités peuvent être compétitives aussi. Okay? Donc, ce n'est pas évident. Donc, ce qui fait que lorsqu'on veut parler, par exemple, de mesures d'évaluation de la qualité des soins, bien, il faut tenir compte de l'acteur qui va procéder à l'évaluation, du contexte dans lequel il est placé, le contexte, on entend par là, avec quelles contraintes il doit composer, quel outil on lui met dans les mains pour pouvoir atteindre ses finalités, et etc. Je pense que si vous êtes gestionnaire, vous avez bien compris. OK. Donc, intégrer la perspective des utilisateurs. Je dis utilisateurs ici parce que la recherche portait à la fois sur la perspective des patients et la perspective des proches aidants. Donc, les utilisateurs, ça regroupe les deux types. Donc, compte tenu de tout ce qui est écrit là, un des points les plus importants qu'il faut retenir, c'est que un utilisateur qui est satisfait en fait des soins puis qui participe, qui a une bonne relation avec les intervenants, il va adhérer plus facilement au régime thérapeutique. Puis il va le respecter très souvent. Okay. Puis ce qui est intéressant aussi, la dernière citation que j'ai pris, que je vous montre ici en bas de Pivic, en fait, ça a été écrit ça, dans une commission de l'avenir sur les soins de santé au Canada. On dit « Il se produit heureusement un changement de paradigme, là où les professionnels de la santé réalisent que le savoir expérientiel du consommateur, de l'utilisateur ou du citoyen est précieux et représente un élément constituant nécessaire à la prise de décision efficace et valide. » Donc, ce qui est intéressant dans tout ceci, dans cet exercice, c'est qu'on va, par exemple, nourrir les gestionnaires et les cliniciens de la perspective des patients, en fait, des patients et des proches aidants, tout ça afin d'augmenter la rationalité dans la prise de décision. Et éventuellement, le but ultime, c'est de développer une culture d'imputabilité des gestionnaires et des cliniciens envers les patients qui reçoivent les soins et envers la population, ce qu'on oublie souvent. Donc, pour arriver, en fait, à opérationnaliser, en fait, ces perspectives-là, dans le cadre d'une étude doctorale, j'avais validé 140 critères de qualité, en fait, auprès des patients et des proches aidants. Beaucoup de critères sont communs aux deux types d'utilisateurs. Et ces critères-là avaient été, par exemple, associés à des dimensions de la qualité, comme par exemple l'accessibilité, l'acceptabilité, continuité, coordination, efficacité, puis, etc. Ce qui est intéressant de noter, quand je disais tout à l'heure que des fois, il y a des perspectives qui sont compétitives, selon la vision des patients puis des proches aidants, on ne voit pas du tout l'efficience ici. OK? Ce n'est pas une dimension de la qualité qui les préoccupe, eux. Okay. Par contre, il y a une dimension qui est efficace, oui, qui est importante, c'est l'efficacité des soins. Et puis, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on discute avec les patients et avec les cliniciens, ces deux types d'utilisateurs n'ont pas la même perception de l'efficacité. Généralement, les patients ont tendance à dire que c'est moins efficace que ce que les cliniciens disent. Okay? En économie, on appelle ça le concept d'utilité. Bon. Maintenant, 140 critères de qualité, que peut-on en faire? Des fois, c'est beau d'avoir des critères, mais ce n'est pas opérationnalisé. Okay? Par un exemple concret, d'ailleurs, je vais en mettre, j'ai mis ici quelques exemples de critères, juste pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler. En fait, ces critères-là existent déjà depuis 2006 et ça n'a jamais été utilisé nulle part. Okay? Pourquoi? Parce que ce n'est pas opérationnel, tout simplement. C'est pas, tout simplement, ce n'est pas avec, à partir de critères que l'on peut vraiment juste opérationnaliser la mesure et l'évaluation. Prenez des gens dans le milieu, par exemple, ils peuvent se faire un questionnaire, ils peuvent passer le questionnaire, ils peuvent commencer à compiler les résultats. Aussitôt qu'on va commencer à compiler les résultats, on va vouloir avoir des résultats organisés sous une autre forme, auprès d'une autre clientèle, commencer à faire des liens entre deux services. On n'en finit plus. Okay, c'est un peu pour ça. Et puis là, c'est l'exemple des services à domicile, mais vous pourriez regarder dans les bibliothèques universitaires, par exemple, il y en a une panoplie de critères validés dans un paquet de services et qui dorment sur les tablettes. Donc, ce que j'ai fait avec des collègues, justement, des collègues français ici et des collègues québécois, donc des gens du CHUC aussi, c'est la conception, en fait, d'un outil informatisé qui permet d'optimiser, en fait, la mesure et l'évaluation de la qualité à l'aide de critères comme ça. Okay? Ici, par exemple, j'ai une capture d'écran qui montre, en fait, une fenêtre qui est la fenêtre, en fait, de départ pour l'édition d'un instrument de mesure. Okay? Ça peut être utilisé, par exemple, par les chercheurs qui vont valider un instrument de mesure. C'est le cas, par exemple, ici, pour les services à domicile de longue durée. Et c'est aussi un outil qui peut être utilisé par les gestionnaires pour se créer des instruments maison qui deviennent à ce moment-là plus des outils de gestion que des instruments de mesure. Bon, évidemment, pour chacun des instruments, on peut définir la structure dimensionnelle et associer des critères. Okay. Ceci dit, pour optimiser maintenant le travail du gestionnaire, on peut permettre, par exemple, à cet outil-là de définir toute la structure fonctionnelle de l'établissement. Okay. Et ça, c'est en temps réel, dans le sens que si on apporte une modification quelconque, ben on peut recalculer tout de manière automatique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et évidemment, ça permet de saisir les données, générer des rapports papier et générer des graphiques. Okay. Quelqu'un a volé mon verre. Oui, si. Excusez. J'étais sûr que je l'avais mis là. Voilà. OK. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous dire un peu. Cet outil-là, sans rentrer dans les détails, en fait, parce que je n'aurai pas assez de temps, c'est un outil qui permet vraiment d'optimiser et de faire parler ensemble à la fois les chercheurs, les cliniciens et, dans le cas des services à domicile, les patients et les proches aidants, parce que la mesure se fait selon la perspective de ces patients-là. Il me restait une diapo que je trouvais importante. Pourquoi maintenant l'importance sur les patients et les proches aidants? Bien, premièrement, ce qui est important, c'est la prise en compte de leur perspective dans l'évaluation de la qualité. Je ne sais pas comment c'est ici, mais chez nous au Québec, déjà depuis le ministre Yvan Côté, okay, on parlait des soins de santé centrés sur le citoyen ou sur le patient et le proche aidant. Ça fait déjà assez longtemps, mais on en est toujours là. En fait, le changement de paradigme que je vous dis, que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est long, ça va prendre peut-être une génération avant de pouvoir adopter ce nouveau paradigme-là. Même ici, j'en parlais à un collègue français qui donne des services à domicile, puis je lui disais, ça pourrait être intéressant de mesurer la perspective selon la qualité selon la perspective des patients et des proches aidants. Il a failli s'étouffer. OK? Parce qu'il dit, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas dans notre culture. OK? Puis nous aussi, c'est pas nécessairement dans notre culture, mais ça nous fait poser des questions, puis c'est ça qui est intéressant. Aussi, c'est une reconnaissance de l'implication aussi du travail des patients puis des proches aidants dans les soins qu'ils se donnent eux-mêmes. Okay? À la limite, puis quand on commence à lire beaucoup là-dessus, on se rend compte que les proches aidants, par exemple, c'est un terme anglais qu'on peut utiliser, c'est du « cheap labor », où c'est des gens qui vont donner beaucoup à la société, mais pour peu. Okay? Pour peu, ça coûte presque rien. Mais par contre, ce qui est intéressant dans les critères de qualité qui sont ressortis, il y en a quelques critères qui parlent, par exemple, qui vont nous questionner sur les activités de ressourcement des proches aidants, okay, où c'est important. Ce qui est important aussi, c'est une plus grande collaboration entre les utilisateurs et les cliniciens. Tantôt, je voyais, on regardait dans les dimensions de la qualité et vous avez souligné le fait qu'il n'y avait pas la dimension d'efficience. Mais par contre, ce qui est important pour les patients, c'est deux choses, c'est l'accessibilité et les relations interpersonnelles. Donc, les relations interpersonnelles, ça se fait ça, avec le soignant. Okay? Et puis, les relations interpersonnelles, ça ne s'informatisera pas, ça, jamais. Okay? Ensuite, le régime thérapeutique, j'en ai parlé. Et aussi, favoriser le développement d'une culture d'imputabilité des gestionnaires et des cliniciens envers cette clientèle-là. Il ne faut pas l'oublier, les gens que l'on soigne, c'est eux qui nous paient aussi. C'est eux qui votent pour le gouvernement, qui vont mettre en place des politiques en matière de santé et de bien-être. Voilà, en tout cas, sans rentrer dans les détails, évidemment, je m'amuser, j'aimerais ça en discuter plus longuement, mais je pense que de toute façon, l'important, c'est qu'on a compris ici que le but que je visais, c'était vraiment de démontrer l'importance de cette collaboration-là entre chercheurs, cliniciens, gestionnaires et patients. Sinon, ce sont des mécanismes qu'on met en place qui sont voués à l'échec, très souvent. Et puis, ce qui est important aussi dans les exemples que l'on peut vivre. Justement, hier, j'étais dans un établissement ici. Et puis, ça, lorsqu'on met en place vraiment un programme qualité dans un établissement, c'est vraiment un levier de gestion que l'on peut utiliser pour même motiver les troupes. C'est vraiment intéressant. Puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que des fois, quand on commence à implanter ça dans un service, les autres services voient ce qui se passe autour. Puis, des fois, ils demandent, tu sais, pourquoi nous, on passe toujours en dernier? Okay? Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, voilà. Je pense que je vous remercie beaucoup.
Bien, toute la question de l'évaluation de la qualité est quelque chose aussi pour nous d'important. Hein. On a une agence qui s'occupe que de ça ici en France. Vous avez parlé des soins à domicile, donc nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de sujets, puisque nous, on a des infirmiers libéraux qui sont à domicile, et la question même du suivi de la qualité, nous, et de l'évaluation de la qualité, c'est la question de la traçabilité et des échanges des soins. Donc derrière ça, nous, ce qu'on perçoit très bien, et ce que les infirmiers libéraux, en tout cas, perçoivent, c'est pour ça qu'ils sont très aussi appétents sur les sujets de télémédecine et de nouvelles technologies, c'est de pouvoir justement rendre compte de ces activités. Et la question des activités, alors, infirmières que moi je connais bien, mais on pourrait en parler pour d'autres professionnels de santé, c'est la question de notre évolution, de notre activité. Et l'intérêt, en fait, de ces outils numériques, c'est de pouvoir la suivre au jour le jour et de pouvoir très, très vite percevoir, en fin de compte, les changements de pratiques. Comme vous dites très bien, on ne change pas vite de paradigme, mais la question des changements de pratiques est un sujet, c'est-à-dire que si on ne les perçoit pas et si on ne les visualise pas, on a aussi beaucoup de mal à rentrer dans ces évolutions, alors qu'on voit que ces outils-là peuvent être, en tout cas, d'un réel intérêt.